Interview.
2 jours.
Bonjour, ici Erdua et c'est l'heure de l'interview avec au studio Natalia Zamudio. Bonjour.
Bonjour.
Natalia, vous êtes avec nous pour nous annoncer une exposition à venir. Ça se passera à la Venel Galerie au 61 rue Camille Bufardel de Die et ça s'appelle Traverser avec un pluriel du S entre deux parenthèses.
Oui.
Et donc, c'est, comme vous le dites, votre première exposition. L'année dernière, nous nous souvenions de cette exposition que vous aviez proposée au Baraki avec Marion Fontaine.
Oui.
Une très belle exposition aussi.
Mmh,
et donc,
beaucoup.
C'est dans une continuité aussi, avec un traitement de la couleur, du pigment et de du textile.
Et oui, ouais, justement, c'est pour la première fois que je montre mon travail. Développé à l'atelier des teintures végétales que j'ai installé, j'ai créé depuis 2021. Et là, il y a 3 projets qui sont issus de cet atelier qui vont être réunis dans cet espace de la Venelle pour cette expo. Donc, c'est à la fois une traversée personnelle, mais aussi la traversée de la matière que j'utilise pour chacune de ces teintures, de chaque projet.
Ce travail émane donc de ce traitement hein, du textile avec les couleurs. Cela fait combien d'années que vous êtes sur cette thématique ou cette exploration même?
Ça va être 5 ans.
Oui.
Oui. Et là, particulièrement pour cette exposition, donc j'ai trouvé un fil rouge que c'est justement la matière de la teinture que j'utilise, c'est le bois de Campeche qui est déjà, il était déjà présent pendant l'exposition qu'on a vue au Varaki. Et justement, c'est cette matière dont j'ai un peu insisté par résonance à continuer à travailler avec cette matière. Et là, les projets que je vais montrer, ils utilisent tous cette même matière. Donc, il y a comme une continuité qui, par résonance, justement, m'a montré qu'il y a une histoire derrière les matières que j'utilise. J'utilise de la soie, j'utilise du coton, mais j'utilise la teinture, le Campeche, qui vient du Mexique. Et justement, l'invitation de cette exposition est un peu à découvrir ça, comment les matières aussi parlent d'où elles viennent et elles aussi font une traversée.
Et donc, c'est quoi?
Le Campeche, c'est le bois. En fait, c'est avec ça que j'ai fait la couleur.
Donc, c'est un bois qui déteint avec l'humidité, c'est
oui.
Ça?
On fait une décoction. On le met dans l'eau chaude et selon la température qu'on utilise, on peut atteindre différentes tonalités. Ça passe de gris au noir, en passant par le violet, par le bleu, par le rouge aussi. C'est très, très intéressant comme matière.
Elles peuvent être stabilisées à certains passages de couleurs.
Oui.
D'accord.
Justement, c'est assez technique. C'est très intéressant parce que ça peut être selon comment on prépare le tissu. Donc, si on prépare le tissu avec un truc acide pour le fixer la couleur, peut-être qu'il va rester plutôt vers le rouge-violet. Mais si c'est un peu plus basique, ça peut donner des bleus, voire des noirs. Et si on ne met rien de tout, si c'est une matière animale, ça ne va pas être la même chose que si c'est de la matière végétale. C'est vraiment très... Ouais, c'est ouf.
Vous, Natalia, vous êtes originaire de quelle Amérique?
De Colombie.
De Colombie.
Ouais.
Et est-ce qu'il y a cette tradition ou cette utilisation de ce textile, de ces couleurs qui t'ont marqué et peut-être... Ou alors, est-ce que ça a été initiateur d'un travail, d'une approche?
Ouais, c'est plutôt ça, parce que en réalité, donc, je suis arrivée ici en France vers 2017. J'avais déjà l'idée de travailler avec la teinture, mais c'est en arrivant en Adi, donc vers 2020, que finalement, je trouve la possibilité d'avoir un atelier de teinture. Et par les choses de la vie, je rencontre Marie Marquet. Donc, j'ai fait un petit cours avec elle. Et je commence à faire des explorations juste après à mon atelier. Et je voulais justement parler de ces projets qu'on a vus au Varaki. Donc, c'est un projet qui est assez chargé émotionnellement. Et je voulais parler de la mémoire collective, du deuil. Donc, j'ai cherché une couleur qui pouvait parler de ça. Et là, je me retrouve avec le bois de Campeche. Mais c'était vraiment par résonance de ce que je vais vous transmettre avec la couleur. Et je continue parce que c'est une matière qui justement permet de retrouver plein de couleurs à partir des mêmes bois, selon comment on les prépare, selon les conditions. Donc, je continue à explorer ce matériel. Et là, maintenant, ça fait déjà un an que je commence un autre projet plutôt relié à ce que je vois qui se passe ici en Europe, qui me touche profondément. C'est un projet qui s'appelle Cuerpos de Agua. En français, c'est corps d'eau. Et qui je souhaite montrer ici dans cette expo. Et justement, je commence à voir le lien entre... Il n'y a pas que la couleur. Il y a aussi l'histoire de cette bois de Campeche qui a été exploitée en Amérique pendant la colonisation. Elle est originaire d'Amérique centrale. Et donc, elle vient principalement du Mexique. Et à un moment donné, pendant la colonisation, pendant le XVIIe siècle, on trouve qu'en fait, c'est une matière qui s'est produite énormément là-bas. Les Aztèques, ils l'utilisaient déjà. Et donc, ils commencent à la piller, à l'exploiter, et ils la ramènent ici. Et ça commence à remplacer d'autres matières qu'on utilisait ici pour la teinture, comme la guède ou le pastel, ou l'indigo même, si je ne me trompe pas. Et donc, ça a généré des guerres, même, entre l'Espagne et l'Angleterre, pour cette teinture. Et voilà, je commence à m'intéresser à tout ça, et c'est ça qui me fait un peu gratter cette histoire et aller un peu plus dans ces informations qui me paraissent, qui ressemblent vachement aussi avec le projet justement que je suis en train de développer là.
Donc, les traversées au pluriel, il y a cet aspect l'histoire
oui.
De mémoire. Et puis, il y a aussi cette traversée de cette teinture au travers des textiles, à l'aide de presse également.
Ouais. Donc, je continue à travailler avec la technique japonaise du shibori, sauf que cette fois, j'utilise pas des blocs de bois comme la dernière fois. Cette fois, c'est vraiment par compression. Et vous allez voir le résultat, c'est surprise.
Ça se présente comment je pense avoir parlé du sport surface la première fois que tu étais venu. Est-ce qu'il y a toujours un peu cet aspect de la toile qui se libère de son châssis et donc qui se laisse porter par l'inspiration, l'air?
C'est assez intéressant parce que justement il y a donc trois projets. Il y a deux, et en effet, le textile, il est assez libre, on va dire, mais il y en a un qui essaye de rentrer un peu dans cette histoire aussi de l'art, donc un peu entre l'art plastique et le textile. Donc là, j'essaye de faire des compositions qui ressemblent un peu plus à ce qu'on est habitué à voir dans un musée, et voilà, c'est un peu aussi jouer avec cette...
Quand tu cites le mot art, tu fais le signe des guillemets.
Oui.
Est-ce que, justement, tu n'as pas l'impression de créer des œuvres artistiques? Tu crées quoi, donc, à ce moment-là?
Je pense que oui, je le considère art. Par contre, je pense qu'il y a aussi une position de mon côté où j'essaye d'introduire des choses qui ne sont pas considérées comme matière artistique, mais plutôt artisanat. Et justement, j'essaye d'un peu d'effacer cette espèce de frontière qu'on a voulu marquer très clairement sur ce qu'on considère qui mérite d'être dans une galerie, dans un musée, et des laveurs, des choses, comme on dit, des métiers qui sont un peu plus, qu'on va dire, du quotidien, des choses que souvent font des femmes. Donc, moi, ça m'intéresse aussi d'un peu changer cette perspective. Je pense que je ne suis pas l'unique à le faire, mais, mais voilà, c'est une position aussi d'essayer de ramener, ouais, ramener quelque chose de plus artisanal à ces espaces.
Le Campeche, ce bois, donc, est-ce qu'il est aussi très lié à la culture colombienne ou d'autres pays d'Amérique du Sud?
Plutôt de l'Amérique centrale.
Amérique centrale,
c'est
oui.
C'est vrai que nous, en Colombie, on ne l'a pas. En tout cas, je n'avais jamais vu. Et quand j'ai un peu suivi l'histoire de comment il a voyagé, en fait, il a été plutôt exporté vers l'Inde, vers le Pakistan, même vers l'Afrique, au Madagascar. Parce qu'il y a une certaine, il y a certaines conditions, j'imagine bien climatiques, qui permettent qu'il se développe mieux. Et il était tellement, ouais, c'était vraiment une matière qui était, c'est devenu très très important pendant le commerce colonial, qu'ils ont essayé de la diffuser dans plusieurs colonies pour justement continuer à en produire.
Tu parlais de cuerpos de agua, c'est le corps de l'eau, donc
oui.
C'est une proposition dont émane celle-ci, là, cette exposition. C'est une thématique ou un...
Bon, ce projet, il est assez spécial parce que, disons que c'est le lien avec les traversées, parce que... Moi, je commence à m'intéresser à ce qui se passe en Méditerranée. Je suis allée passer un été l'année dernière, je suis allée quelques jours. C'est un endroit que j'étais au niveau de Marseille. Je suis allée aussi vers Barcelone. Et je trouve que c'est un endroit magnifique. Il y a quelque chose de c'est très beau. Et en même temps, c'est un endroit où, si on vient d'Afrique et qu'on veut venir en Europe... peut-être qu'on pense à que ça, c'est la manière de traverser. Et de plus en plus, je trouve que pour les personnes qui essayent de venir en Europe depuis l'Afrique, ça devient à chaque fois plus dangereux. Et en Europe, on essaye de faire des lois qui interdisent justement les passages des corps des personnes. Et donc, c'est ça qui m'a un peu... interrogé, je me suis dit, mais c'est marrant qu'on a quand même beaucoup de commerce, il y a beaucoup de choses qui se sont passées, qui passent ces frontières, on a fait cet espace en frontière, et même, c'est pas toutes les personnes qui peuvent passer, donc ça m'a vraiment interrogé, ça m'a fait dire, ben, j'aimerais bien aller parler de ça, comment, de cet espace qui est à la fois un espace des beautés et à la fois un espace des dangers selon l'endroit où on se trouve. Si on se trouve du côté de l'Afrique, c'est vraiment quelque chose qui peut impliquer la mort. Ouais.
Et effectivement, avec l'actualité aujourd'hui sur le système Frontex notamment, et puis ces fermetures de frontières, c'est ce qui est abordé aussi dans cette exposition. Sont cités les mots exil, mémoire. Comment se présentent ces mots sur un support artistique?
Oui.
Sans dévoiler peut-être le travail, mais est-ce qu'il y a le texte qui paraît? Est-ce qu'il y a des signes qui indiquent?
Il y a plusieurs choses, en fait. Disons que moi, ça m'intéresse plutôt créer un espace, donc il s'agit d'une installation, et j'essaye de créer un espace qui permet de mettre cette thématique sur la table, de créer un espace de dialogue. Ça m'intéresse de savoir, en tout cas les personnes qui vont venir visiter l'expo, de savoir qu'est-ce que ça évoque pour elles, parce qu'en effet, la première impression ne va pas tout à fait communiquer la thématique dont on parle. Et c'est voulu. J'ai plutôt l'intention d'essayer de chercher le sublime. Donc cette idée de beauté dans quelque chose que peut-être c'est pas si belle. Et donc il y a cette espèce de contradiction entre la matière, l'image, et ce qu'elle va venir après mettre en surface. Donc il s'agit de ça, d'essayer d'utiliser le tissu comme une surface sous laquelle il y a des choses, des histoires qu'on n'arrive peut-être pas à voir, surtout si on est en vacances, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe sous la surface de l'eau de la Méditerranée. Donc il y a un peu cette idée. Il y a aussi justement une carte qui va peut-être permettre, c'est un document de recherche. Moi, j'ai travaillé, c'est ma manière de faire, c'est la recherche-création. Donc chaque matière, petit détail que je trouve qui peut nourrir cette recherche me permet d'aller ajouter des choses. Donc il y a des textes que j'ai écrits où j'essaye de faire parler les matières, mais aussi moi-même et aussi l'histoire, on va dire. Donc il y a un petit texte et il y a aussi surtout la carte qui essaye de montrer un peu ces différentes traversées à différentes époques des matières que j'utilise, principalement la soie et le bois de Campeche. Donc disons que ça c'est des petits signes qui permettent un peu de suivre ma manière de faire, parce que j'essaye pas du tout de faire une illustration de la situation. Moi-même, je ne suis pas une personne immigrée dans cette traversée-là, mais je suis migrante. Et il y a quelque chose qui aussi me fait sentir en connexion avec ces personnes qui passent par ça, même si mes conditions ne sont pas les mêmes. Donc ça ressemble vachement pour moi.
Par rapport à ce travail, est-ce que tu établis une méthodologie pour peut-être te situer, continuer aussi ce qui est abordé ou peut-être comme un voyage, une exploration où on prend quelques repères pour continuer?
Je pense que le mot qui décrit le mieux ma manière de faire, c'est résonance. Parce que, par exemple, j'arrive au bois de Campeche par cette histoire de la couleur, mais je commence un peu à chercher d'où elle vient, pourquoi elle se comporte comme ça, la couleur, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça. Et justement, ça m'ouvre à nouveau tout un tas de choses qui me permettent de dire « Ah, peut-être que je peux aller vers cet endroit, vers cet autre ». Et j'utilise pas mal la littérature. Donc, pour ce projet en particulier, il y a la littérature créole qui m'inspire vachement parce qu'eux, ils parlent de la relation. Et en particulier, je m'appuie notamment sur un texte de Glissant, Édouard Glissant, et aussi de Patrick Chamoiseau. C'est une manière très poétique. Ils parlent depuis les Antilles. Et c'est une manière très poétique, justement, de réfléchir à leur histoire. Pour le coup, c'est vraiment leur histoire. Et ça ressemble vachement aussi, pour moi, avec l'histoire de la colonisation en Amérique latine. Donc, il y a vraiment tout ça qui vient un peu s'émêler. Et c'est comme ça que un peu, je travaille un peu par... Je cherche des pistes. Donc, c'est tout ça qui va nourrir... C'est beaucoup de résonance, franchement.
Ça me vient en tête aussi cet art aborigène aussi, qui consiste à dessiner des parcours à l'aide de figures que eux seuls connaissent, hein, sauf si on est un historien. Mais est-ce que tu connais un peu ce type de travail aborigène?
Très, très peu.
Mais je voulais savoir si c'est pareil, hein, ça parle d'un cheminement, de repères, de situations. Et donc, est-ce qu'il y a peut-être une ressemblance avec celui par les mers, par les eaux?
Je n'avais pas pensé à ça, mais ça pourrait. Parce que, de toute façon, peut-être la chose qui me parle en ce moment, la plus proche que je connais des cultures... aborigènes qui font ça, c'est justement en Colombie, il y a les mochilas, donc c'est des petites sacoches qui sont tissées souvent quand on est dans une réunion, et en fait pour eux ça c'est les textes, et c'est assez beau parce que textiles ont la même racine, donc où ils ne sont pas d'écriture, mais le fait de tisser pendant qu'ils écoutent ce qu'ils parlent, c'est une manière de un peu écrire, c'est une manière d'écriture de garder une mémoire. Donc en effet, si on leur demande, ils vont te dire ah oui, ce type de figure va parler des femmes. Ce type de figure, on le fait quand on veut dire que dans cet endroit il y a de l'eau, il y a des choses comme ça, des informations qu'on connaît que je sais pas, il y a les chevaux, les animaux, ouais, les chevaux, les animaux, le bon, il y a des repères qu'ils arrivent, ouais, des symboles qu'ils développent. Donc c'est une espèce d'écriture qui reste. Et, de mon côté, je ne l'avais pas réfléchi comme ça, mais pourquoi pas.
Est-ce que tu es en train de construire ton écriture?
Ça, ouais. J'ai de toute façon cette sensation de trouver un espèce de langage parce qu'il y a la matière qui commence à parler d'elle-même. Donc justement, c'est pour ça que pour moi, les mots résonance est très... Bah, j'insiste beaucoup sur ce mot parce que... En réalité, ce n'est pas moi qui est en train de lui donner à cette matière en particulier une mission ou quelque chose comme ça. C'est vraiment le travail de résonance avec cette matière qui m'a permis de trouver comment elle peut s'exprimer dans ses projets et dans ses idées. Que j'ai. Je ne sais pas si je m'explique, mais il y a quelque chose vraiment de... On est sur une ligne horizontale. Ce n'est pas un truc de je contrôle. C'est plutôt un dialogue avec la matière qui me permet de dire, ah, c'est elle qui est en train de montrer quelque chose et je suis en train de suivre un peu la voie qu'elle me montre, le chemin que la matière me permet un peu d'explorer. Donc c'est ça que j'appelle recherche-création.
Le visiteur produit lui-même aussi l'œuvre.
Ça, c'est mon souhait. je suis pas sûre de... Justement, c'est ça qui est intéressant, de montrer son travail et dans un espace comme la Galerie La Venelle où il y a des conditions qui sont assez exceptionnelles pour montrer des tissus. Ça va être, je pense, ça va être très beau. Pour moi, il y a un côté qui est peut-être le plus intéressant au-delà de tous les concepts que j'ai ramassé dans cette espèce de... Ouais. Mais... Et c'est justement l'expérience. Donc, au-delà de toute l'histoire que je peux faire filtrer à travers ce que je retrouve, il y a vraiment l'expérience du corps. Et c'est justement ça qui me fait utiliser le mot traverser. C'est vraiment parce qu'il y a quelque chose de corporel dans l'expérience. Donc, pour moi, je pense que la première chose, et peut-être le plus intéressant, ça va être d'écouter ce que les visiteurs ont à dire une fois qu'ils regardent et qu'ils traversent l'espace. Parce qu'il y a vraiment ça, en tout cas ça, c'est vraiment mon souhait de créer une expérience, quelque chose qui va au-delà de ce que les personnes peuvent apprendre sur le campèche. Et ça, c'est aussi chouette. Mais au début, à la base de toute cette histoire, il y a vraiment le corps.
Et ce corps, donc, il observe, peut-être sent-il quelques parfums. Et puis surtout, est-ce qu'il y a un toucher sollicité pour cette exposition? Est-ce que le visiteur peut être amené à toucher ces toiles?
Je pense que oui, justement à cause de, ou grâce à la disposition, ça va être probablement le cas. Oui, mais je pense qu'il y a aussi l'espace et la couleur et ce que ça peut évoquer, non? Mais voilà, c'est vraiment plutôt ce que les visiteurs peuvent me dire.
On laisse un peu de mystère.
C'est clair.
Ce lieu propose deux niveaux d'étage.
Oui.
Tu les occupes.
Ouais. Et justement, ça va être aussi intéressant de voir comment les personnes réagissent à ces propositions. Il y a, à nouveau, je vais montrer Euphémisme. Je pense qu'il y a plusieurs personnes qui n'ont pas eu l'occasion de les voir au Baraki. Et donc, ça va être aussi intéressant de les revoir dans une nouvelle configuration. Et ça aussi, ça m'intéresse énormément.
Une exposition donc, qui commence le vendredi 11 septembre avec un vernissage à 18h. Ça se passera, donc, comme je l'ai dit, à Venelle Galerie, au 61 rue Camille Buffardel. Une exposition qui durera jusqu'au 10 octobre est essentiellement ouverte les mercredis et samedis aux heures du marché et peut-être aussi dans l'après-midi de 16 à 19 heures.
Oui.
L'entrée est libre. Eh bien, peut-être, est-ce que aurais-tu une proposition musicale pour finir cette émission ?
J'en ai une.
Vas-y.
Et justement, en parlant des Antilles, j'ai découvert un musicien qui s'appelle Alain Peters. Et de lui, une chanson, je crois que c'est très très connue, qui s'appelle « Reste la Maloya ». Voilà, ça ressemble bien avec ses projets.
Natalia Zamudio, tu as également un site internet.
Oui.
On tape ton nom, on le trouve facilement.
Sur Instagram, il y a un petit Instagram de l'atelier qui s'appelle Atelier d'exploration textile. Et voilà, c'est tout.
Natalia, je te souhaite une bonne soirée.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.
Difficile, mais il voudrait bien tourner la ville.